CFM, à quel tour?
À quel tour?
17h30, 19h.
De l'info,
des interviews,
des jeux
et
du rock.
Du rock.
CFM.
Bonjour à toutes et à tous, le rendez-vous politique aujourd'hui avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Votre invité Kader aujourd'hui, c'est Brigitte Barège, maire de Montauban, présidente de la communauté d'agglo Grand Montauban. Bonjour Brigitte Barège.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Oui, donc c'est Brigitte Barège, maire de Montauban, présidente du Grand Montauban, qui est notre invité du rendez-vous politique de CFM aujourd'hui, avec qui nous ferons un point sur la situation de l'UMP au moment où l'ancien président fait son retour sur la scène politique. Nous reviendrons avec elle sur des propositions pour le moins révolutionnaires du MEDEF qui préconise un Big Bang du Code du Travail qui pourrait générer, selon lui, 1 million d'emplois à la clé. Nous ferons point avec Brigitte Barège sur les sénatoriales qui approchent, c'est pour dimanche, et sur la réforme territoriale. Bonjour Brigitte Barège et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Oui, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs que nous ne voyons pas.
Premier sujet d'actualité, vous avez écrit au ministère de l'Intérieur afin de le sensibiliser, je vous cite, à l'afflux important de demandeurs d'asile, avec pour conséquence la scolarisation de leurs enfants dans les écoles de Montauban. Première question, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il vous a répondu?
Non, et je le regrette parce que si je me suis résolue à interpeller directement le ministre de l'Intérieur, je n'ai pas l'habitude de faire des lettres ouvertes. J'ai commencé d'abord par interpeller le préfet de région, j'ai demandé des rendez-vous, je n'en ai pas eu, j'ai eu un entretien au téléphone, je lui ai écrit 2 fois, et comme je n'ai pas eu les réponses que j'attendais sur ce problème de répartition dont j'espère on pourra parler tout à l'heure, j'ai carrément là aussi, à ce moment-là, écrit au ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il y a un vrai problème de fond qui apparemment dérange, et je pense que c'est un peu pour ça que, si vous voulez, que je vois aujourd'hui une cacophonie, une polémique à propos de propos que pour moi dépassent stigmatisants, pour éviter d'aborder le fond. Je vous donne un exemple. Un de vos confrères, Libération, m'a interpellé à propos, vous savez, de ce qu'avait relaté la Dépêche, comme une fois toujours caricaturale. Et quand je lui ai expliqué le problème de fond, que j'espère on va aborder, il a été très intéressé parce que personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Et j'attends depuis 8 jours, il doit sortir son papier. Et j'espère que les médias vont s'emparer de ça parce que malheureusement, il y a une forme d'omerta. Je suis victime, comme toujours, de cette omerta parce qu'on m'empêche de parler. Et pourtant, mon propos n'est pas caricaturant, n'est pas stigmatisant.
Est-ce que vous regrettez cette phrase? Parce qu'en fait, ce qui fait polémique, ce qui est monté en épingle jusqu'au niveau national, c'est Montalbanais de souche. Ouais. Et c'est ce qui cache finalement votre propos.
Si vous permettez, je voudrais peut-être expliquer le fond et vous expliquer les conditions dans lesquelles ça a été. Et vraiment, alors, ce n'est pas du tout stigmatisant dans mon propos. En fait, je constate, en tant que maire de Montauban, chaque année, nous avons des dossiers de demandeurs d'asile et, par voie de conséquence, à scolariser dans les écoles. Cette année, nous en avons eu 85, ce qui montre un accroissement considérable d'une année sur l'autre. L'année dernière, on en avait une quarantaine. L'année d'avant, une trentaine. Et d'ailleurs, ça correspond à l'afflux de ces dossiers, puisque ça a augmenté au niveau national de 75% en 3 ans, donc ça ne m'étonne pas. Simplement, j'ai demandé à vérifier la répartition sur le territoire. En 2 mots, très rapidement, les dossiers arrivent à Paris, l'État, enfin le ministre de l'Intérieur, les répartit entre les préfets de région, et chaque préfet de région lui-même doit les répartir entre les départements. Sauf que, et déjà avec le préfet de région précédent, Monsieur Comé, je m'en étais ouverte, nous constatons qu'à Montauban, on en a beaucoup plus qu'ailleurs. Beaucoup plus qu'ailleurs. Pour mémoire, cette année 2014, sur les 1203 dossiers de 2014 pour la région Midi-Pyrénées, 193 pour le Tarn-et-Garonne et 369 pour Toulouse. Mais par contre, vous en avez seulement 86 pour le Lot, 95 pour le Gers, vous en avez 90 pour le Tarn. Bref, on voit bien qu'à le Tarn-et-Garonne, c'est Montauban parce que il y en a un certain nombre à Montclar, puisque vous savez qu'il y a un CADA, un centre d'accueil pour les réfugiés, et puis le plus gros des troupes arrive à Montauban. Et moi, je dis que ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a dit, sur les 85, j'en ai inscrit 50, ce que oublié de dire la presse, 50 sur cette année scolaire, ce qui porte à 175 le nombre d'enfants en situation de demandeurs d'asile, qui se rajoutent aux autres enfants étrangers. La difficulté, c'est qu'ils ne parlent pas la langue française. C'est toute la difficulté. Aujourd'hui, dans nos écoles montalbanaises, si je rajoute ceux qui ont un titre de séjour régulier, ceux qui viennent de l'espace Schengen, ceux qui viennent au titre des demandeurs d'asile, c'est plus de 400 enfants, une augmentation presque 10% de la population scolaire de Montauban. Et là, c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que Vous savez, je dis pas
sur le constat.
Non, ça c'est un... et voilà pourquoi j'ai interpellé
le ministre.
C'est pas
sur le constat que les opposants finalement.
Non, mais parce qu'ils veulent pas le.
C'est surtout sur ces propos. Est-ce que vous le regrettez?
Non, je ne regrette rien parce que ce que j'ai expliqué, c'est qu'au-delà du nombre qui est croissant et de sa répartition, on assiste à une concentration. Il y a des écoles où les enfants de migrants, des enfants étrangers, je sais pas comment on peut dire, on peut pas vexer les gens, ne parlant pas la langue française en tout cas, sont plus nombreux que les Montalbanais. Alors je vais dire Montalbanais, tout court, pour pas choquer. Et c'est un vrai problème. Pourquoi ? D'une part parce que ça pose des problèmes de réussite scolaire pour tout le monde, pour ses enfants et pour les enfants montalbanais, et ça pose aussi un problème d'intégration républicaine.
Oui, mais c'est de souche, madame.
Non, mais alors, écoutez, on va pas. Moi, je crois que la polémique a été faite autour de ce sujet.
Pour
la plainte des SOS racisme aujourd'hui et encore l'article d'ADP aujourd'hui. Pourquoi fait-on ça? On fait de la mousse. On essaie d'exciter.
Vous savez certainement que le Front National a publié un communiqué de presse dans lequel il vous accuse finalement
de Front National. Je m'en fous.
De marcher sur
le meilleur adversaire du Front National, c'est quand même moi. Je voudrais quand même rappeler que depuis 2001, je suis systématiquement élu sur des triangulaires contre le Front National et que le Front National est le meilleur allié du Parti Socialiste ou le Parti Socialiste est le meilleur allié du Front National. C'est toujours lui qui fait monter le Front National. Moi, je dis qu'il faut oser aborder les sujets. Et c'est pas parce que le Front National les aborde que nous, on doit considérer qu'ils sont tabous. Ce que je constate, c'est que depuis que j'ai interpellé le ministre... Pas vous, vous êtes le premier à me poser la question, je vous en remercie, de savoir si j'ai une réponse du ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Je lui demandais au ministre de l'Intérieur une meilleure répartition. Je demande de l'équité. C'est tout. Il y a Rocard qui a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi, je dis même pas ça. Je dis, il faut, je demande simplement qu'elle soit mieux répartie.
Vous pensez obtenir satisfaction sur ce sujet?
Je n'en sais rien. Je l'espère. Parce que ce qui me donne espoir, moi, je vous dire, je suis quelqu'un de résolument optimiste, sinon je ferais pas de la politique. C'est que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avant d'être Premier ministre, avait demandé un rapport sur ce sujet précisément. Donc il y a bien un vrai problème.
Il y a un projet de loi qui est à l'étude.
Et dans ce projet de loi, il y a eu un rapport, vous avez dû voir ma lettre au ministre, qui dit qu'il faudrait créer un genre de schéma régional. Et avec les intervenants, c'est-à-dire que nous, les maires, on soit associés. Moi, je trouve normal que chacun prenne sa part. Mais je trouve pas normal que ce soit que Montauban, tout simplement parce qu'on a une association qui s'appelle AMAR, qui est extrêmement militante, c'était le mot du préfet de région.
Qui vous reproche, mais qui vous reproche d'avoir gagné du temps, de ne pas avoir inscrit les enfants.
Non, l'association AMAR, est-ce que vous savez qu'ils perçoivent 4000 euros par demandeur d'asile? Est-ce que vous savez qu'ils ont touché pour l'année 2011 1,5 million d'euros? Ce sont les plus militants, ce sont les plus performants. T'as mieux? Faisons-en profiter les autres départements de la région Midi-Pyrénées. Il n'y a pas de raison pour que tout se concentre à Montauban. Vous savez, moi, ce que je constate, c'est que c'est nous, c'est les collectivités qui portent la charge afférente à ces accueils. C'est-à-dire qu'il y a la charge scolaire, mais il y a aussi tout ce qui suit derrière. C'est tout le social, les centres sociaux, et on est heureux de le faire. Mais pour que ça marche, moi, personnellement, vous savez, je me suis battue pour les logements sociaux. J'ai été deux fois primée par la Fondation de l'Abbé Pierre parce que nous avons... Et je suis le maire de toute la France, des villes moyennes qu'elle a construit le plus, deux années de consécutives. Mais qu'est-ce que je fais? Je détruis les concentrations urbaines pour essayer de disséminer les logements sociaux dans l'ensemble des quartiers de la ville pour essayer de permettre justement cette intégration que j'appelle de mes vœux.
Est-ce que ça marche?
Eh bien, je l'espère, je crois. Enfin, il me semble qu'on a moins de problèmes, en tout cas, me semble-t-il. Autrefois, on avait des quartiers de non-droit. Vous n'avez peut-être pas connu, mais les Chaumes, c'était un endroit comme dans certains quartiers de Toulouse où on caillassait les pompiers, on caillassait les gendarmes, etc. Les policiers plutôt, puisqu'il n'y a pas de gendarmes à Montauban. Mais en tout cas, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, si ça vaut que ça marche, il faut que, courageusement, on affronte les problèmes et qu'on n'essaie pas de me stigmatiser, de me caricaturer en disant que je suis ou raciste ou ceci ou cela parce que je dis les choses. Moi, je n'ai pas voulu stigmatiser qui que ce soit.
Est-ce que vous
pose un problème sur la table et j'aimerais qu'on me réponde à ce problème-là et pas qu'on agite.
Nonobstant le problème de Mandarin, c'est que tout le monde peut reconnaître.
Non, personne ne connaît. Personne ne connaît ce problème.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que finalement cette expression, ces propos, aient pu choquer quelqu'un?
Non, je vous assure. Quand je dis, je suis pas montalbanaise de souche. Si c'est ça qui est stigmatisant, si ça a l'air de dire.
C'est difficile d'être montalbanais de souche. Ça voudrait dire que tout le monde est né à Montauban ville, quoi.
Je vais vous dire, Monsieur Botte n'est pas venu à cette conférence de presse où vous étiez, je crois, représenté.
Oui.
Vous en souvenez?
J'étais là.
Vous étiez là.
J'étais là. Je vous ai interviewé. Les propos que vous avez dit ce soir ont été rediffusés.
Vous
êtes d'ailleurs dans la dernière émission, le rendez-vous politique.
Souvenez-vous de cette conférence de presse qui a duré 1h30. Nous avons abordé tous les sujets de rentrée, pas seulement ceux de la rentrée scolaire. Et
oui, mais vous savez, Brigitte Barège, qu'en organisant devant un parterre de journalistes, quand vous dites un mot comme ça, vous les connaissez,
les
journalistes.
Vous ne les avez pas relevés. Vous, Personne ne m'a reprise sur le sujet. Monsieur Bott n'était pas là. Il a fait filmer par son photographe toute la séance. Il a tout passé l'après-midi. Bonsoir Alain, j'espère que tu as passé un bon moment. Et toute l'après-midi à écouter pour essayer de trouver le point qui pourrait poser problème. Et à 20h le soir, il m'a envoyé un mail laconique. Dans le souci du respect du principe de contradictoire auquel nous sommes très attachés, nous vous remercions de réagir à cette expression qui serait en mesure de choquer Montalbany de Souche.
Mais pourquoi?
J'ai compris que le lendemain, j'aurais une page accablante dans la dépêche du midi.
Justement,
vous ne le savez pas au moment où vous l'avez dit.
Mais bien évidemment que non. Vous étiez là. Est-ce que ça vous a choqué, Rémi?
Madame Barrage, pourquoi vous refusez finalement de répondre à la dépêche du midi lorsqu'il vous propose d'ouvrir
leur colonne? Monsieur
Cadou.
Mais c'est votre nom.
Kader.
Enfin, voilà. Je vais vous dire, quand Monsieur Bott m'envoie ça à 20h, son journal, il est déjà imprimé. C'était déjà dans Mediapart. Il a activé, comme toujours, la blogosphère avec les réseaux qu'on connaît, pour faire en sorte, ce qui est arrivé d'ailleurs, d'affoler tout le monde et d'oublier tout simplement l'essentiel. Parce que, encore aujourd'hui, j'attends que la Dépêche du Midi fasse un papier sur, par exemple, mon interpellation du ministre de l'Intérieur, que j'ai publiée, qui est une lettre ouverte. Je vous remercie de m'en parler. Moi, je suis prête. Ça me paraît... vraiment, pour moi, ce n'était pas péjoratif et ce n'était pas stigmatisant. C'est tout. J'aurais pu dire Montalbany d'origine, Montalbany tout court. C'était pour parler des enfants qui sont inscrits depuis longtemps à Montauban, dont les parents sont Montalbany ou pas Montalbany, mais en tout cas, pour mettre en parallèle les enfants qui parlent pas le français. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, je le redis. J'aimerais qu'on parle des vrais sujets et j'espère que j'aurai une réponse.
C'est un vrai sujet.
Non, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, quand même, est important, parce que j'ai un micro, j'en profite. Sur les 85 qu'on m'a demandé d'inscrire, nous en avons inscrit 50 quand même. Je dis qu'on en a aujourd'hui 175. Au total, 410 d'enfants d'origine étrangère et qui ne maîtrisent pas la langue française. Et j'ai mis en attente et j'ai renvoyé au préfet de région une vingtaine de dossiers qui sont devenus 30 parce qu'ils en arrivent encore tous les jours, en constatant que ces dossiers venaient de Toulouse. Je considère que Toulouse, 1,2 million d'habitants, peut accueillir deux fois plus que ce qu'il reçoit aujourd'hui par rapport à ce qu'on demande à Montauban. C'est juste une répartition équitable que je demande sur le territoire.
Un petit peu de pub et puis on revient en conversation avec Brigitte Barège dans ce rendez-vous politique hebdomadaire avec Kader Youb. À tout de suite.
CFM à Montauban. 101.2.
Moi, malgré un budget serré, j'ai la solution pour varier mes plaisirs. Le guide Pastime. Exceptionnel dans le département, le guide Pastime dépasse tout ce que j'ai imaginé. Je sors plus, je dépense moins. Je profite de réductions jusqu'à moins 50% dans une large sélection de restaurants, de loisirs et de commerces. Avec le guide Pastime, je redécouvre le plaisir de sortir.
Avec Pastime, sortez plus, dépensez moins.
Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Dimanche 5 octobre, rando santé mutualité à Saint-Vincent-l'Espinasse. Dès 8h30, accueil salle des fêtes et petit déjeuner offert. Deux randonnées pédestres gratuites et ouvertes à tous. Impôt de l'amitié clôturera cette matinée. Prévoir son pique-nique. De 13h30 à 16h, échanger conseils auprès de professionnels de santé. Coach sportif, diététicienne, kinésithérapeute et bien d'autres. Rando santé mutualité à Saint-Vincent-l'Espinasse, dimanche 5 octobre, avec la mutualité française Midi-Pyrénées et le comité départemental de la randonnée pédestre. Renseignements sur midipyrénées.mutualité.fr.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7.
Suite du rendez-vous politique avec Kader Youb, notre invité aujourd'hui, Brigitte Barège.
Oui, Brigitte Barège, on connaît désormais le calendrier des futures élections. Mars prochain pour les cantonales, fin 2015 pour les régionales, après les cantonales en mars, et surtout après l'officialisation de la nouvelle carte des régions. On va y revenir sur le découpage des régions, on vous demandera ce que vous en pensez. Mais sur les sénatoriales, on a vu votre patte certainement sur des documents de l'UMP qui font état de tous contre Jean-Michel Baillet. Est-ce que vous êtes derrière finalement cette recommandation adressée à la CNI, à la Commission nationale d'investiture de l'UMP?
Alors, mais là, ça m'amuse que d'ailleurs que Jean-Michel Baillet ait eu accès. Alors, il s'en est offusqué à ce qui a été dit dans la Commission nationale d'investiture de l'UMP.
Tout le monde y a accès, Madame Barrage.
Oui, non, mais c'est pas un reproche. Je peux dire, c'est pas un reproche. Il n'est pas normal que responsable de l'UMP ce département, je demande qu'on essaie de faire élire des sénateurs de droite et qu'on fasse battre le sénateur sortant, qui est en l'occurrence Monsieur Jean-Michel Baillet. Je voudrais simplement d'ailleurs rebondir sur la question tout à l'heure très rapidement. C'est pas un hasard que j'ai ces polémiques aujourd'hui dans la Dépêche. par hasard, chaque fois la dépêche se déchaîne quand il y a une élection qui se profile. Je pense que Jean-Michel Baillé est en très grande difficulté pour la première fois et qu'il veut peut-être se rallier au deuxième tour les électeurs du Front de Gauche ou de l'extrême gauche représentés, je ne sais plus si c'est Madame Bouissy qui se présente encore une fois. Très certainement, il essaie de donner des gages à cette extrême gauche qui est quand même pas très proche de lui, il faut bien le reconnaître. Donc, il est normal que je m'investisse, après tout, il m'aime tellement que je le lui rends bien.
Et quand vous investissiez.
C'est normal, je suis responsable politique, donc j'essaie d'organiser, c'est mon rôle quand même, les échéances électorales, bon, en l'occurrence les sénatoriales, qui ont lieu, vous l'avez rappelé, dimanche. J'espère très, très vivement donc que Jean-Michel Baillé sera battu, je ne le cache
pas. Pourquoi un candidat alors que vous auriez pu...
Parce que je pense que je vais lui aider à régler un problème de cumul. Vous savez que c'est quand même le troisième plus grand cumulard de France. Il a reconnu d'ailleurs lui-même qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. D'ailleurs, je crois qu'il y a des chiffres assez accablants que d'ailleurs François Bonhomme se plaît à répéter. C'est que voilà un sénateur qui ne fait rien. On ne sait pas ce qu'il fait au Sénat, puisque en présence en commission 2, intervention en commission 0, rapport écrit 0, proposition de loi 0, question orale 0. Il entame un quatrième mandat de sénateur et il pense qu'il peut dire qu'il est crédible dans ce travail parlementaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser la place à des gens qui ont envie de travailler, à des gens qui ont fait leurs preuves, qui essaient de faire de leur mieux pour rédiger la loi, pour être à l'écoute des élus de terrain, parce que c'est un peu le rôle des sénateurs, hein, d'être les relais de ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, notamment les maires ruraux. Et je pense que Jean-Michel Baillé, sincèrement, s'il est battu, il sera sanctionné.
Vous pensez sincèrement qu'il sera battu, puisque
je pense sincèrement qu'il
sera
battu.
Sur le même document de l'UMP, l'UMP en observation, la gauche conservera ses deux pieds.
À Paris, écoutez, en tout cas, on fait tout pour. Et puis après, on verra bien ce qu'ont les grands électeurs qui décident. Moi, ce que je regrette, c'est que les socialistes manquent un peu de courage. Monsieur Astoul, qui était décidé à partir, vent debout, il n'avait pas eu d'investiture du Parti Socialiste parce que Baillé avait négocié à Paris des accords avec Valls pour ne pas avoir de candidat socialiste, n'a pas duré longtemps. Au bout de 15 jours, je crois qu'il a été rappelé à l'ordre. Mais il y a un nouveau candidat, Monsieur Bataran, qui est venu se présenter aujourd'hui, je le connaissais pas, qui est un homme qui me semble-t-il peut porter les couleurs du Parti Socialiste avec panache. C'est un homme qui m'a l'air vraiment d'un très bon niveau, qui lui n'est pas cumulard, qui a envie de s'investir. Je pense que ça sera bien pour les socialistes parce que, comme toujours dans ce département, vous avez vu l'Express qui avait fait vous avez dû le voir, la révolte étouffée des socialistes, les militants PS du Tarn-et-Garonne vivent de plus en plus mal les accords nationaux imposés par Paris.
Vous les plaignez,
je les plains profondément. Moi, je suis un adversaire déclaré, mais eux, ils sont des alliés, ils se font avoir
UMP,
chaque fois.
Pareil.
Ah non, mais non, c'est pas pareil. Il est pas tout à fait.
C'est très bien que les appareils.
Je pense que les socialistes paient un lourd tribut. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas de souffle démocratique. Et on voit bien que quand il y a une parole qui ose s'élever contre le seigneur local, en l'occurrence Brigitte Barège, François Bonhomme, Thierry Deville, eh bien, on est immédiatement voué à l'hégémonie. Et en tout cas, on est terriblement attaqué par l'organe de presse qui est loin d'être un organe de presse. Pour moi, c'est un journal de propagande, tout le monde le sait.
Vous épargnez Yvon Collin?
Yvon Collin, je l'épargne, non, je l'épargne. Je crois que c'est un sénateur qui travaille, qui l'a prouvé. Qui a payé cher le fait qu'il a été justement un parlementaire qui travaille, qui a été reconnu, puisqu'elle a été, vous le savez, présidente d'un groupe, le RDCE, au Sénat, qui était un groupe qui regroupait des gens très divers, puisqu'il y avait Jean-Pierre Chevènement, il y avait
les radicaux,
Hervé Morin, le maire de Mulhouse, j'ai oublié son nom, qui était Nouveau Centre. Bref, je crois qu'à un moment donné, Jean-Michel Baillé l'a pris en brage, parce que c'était devenu l'interlocuteur de l'Élysée et de Matignon, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République. Et à un moment donné, si vous voulez, les hommes sont les hommes, surtout les hommes. Ils aiment dominer. Donc, je pense qu'il y a eu un règlement de compte entre amis et qui fait qu'Yvon Collin était complètement, évidemment, radié de la carte des radicaux de gauche. Mais j'espère, il n'est plus radical de gauche, c'est un homme libre. Je salue les hommes libres. Il n'y en a pas beaucoup dans ce département.
Un mot très vite sur le redécoupage des régions. Est-ce que redécoupage vous satisfait?
Écoutez, j'ai pas mon mot à dire. Mais si vous me le demandez, je pense qu'on était plus légitime quand on se rapprochait de l'Aquitaine. Me semble-t-il qu'on a peut-être plus d'acquaintance. Moi, je vois Lot-et-Garonne, j'étais la semaine dernière. Bordeaux-Toulouse, il y a des vraies synergies entre
la Rolétie,
Alain Juppé, qui est un homme politique que je respecte, et des synergies sur l'aéronautique, je viens de dire, sur la LGV. Il s'avère qu'on est marié avec le Languedoc-Roussillon, j'ai des amis aussi là-bas.
Vous parliez de Jean-Michel Baillé, en l'occurrence, il a sauvé des conseils généraux, non?
On verra. Vous savez, moi, les promesses de politique à ce niveau-là, quand il s'agit de négocier des places, on verra. Je pense que le Conseil constitutionnel, enfin, je ne suis pas une grande juriste, mais j'aime bien le droit constitutionnel. Je vois pas comment on pourrait faire deux régimes. Ce serait complètement contraire à l'équité républicaine. Des départements qui survivraient parce qu'il y a de la ruralité, d'autres qui disparaîtraient. Et j'ajoute d'ailleurs que c'est pas gagné pour lui, parce que même si c'était ça, il est prévu, j'ai vu le texte, que ce sont des départements ruraux où vous n'avez pas d'agglomération suffisamment importante.
Oui,
je pense que Montauban, quand même, qui représente 4000 habitants, c'est-à-dire presque pas tout à fait la moitié, mais au moins les deux tiers, le tiers du département, est une métropole importante, en plus avec la proximité de Toulouse, ce qui fait qu'il rentrera pas, à mon avis, dans les critères posés par la loi qu'il a voté lui-même.
Il y a un événement, qui a résonné aux oreilles de tous, un peu comme le 11 septembre, un événement qui peut être extrêmement clivant dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'assassinat d'Hervé Gourdel. Non. Quelle est votre réaction, Brigitte Barrez?
C'est pas clivant, justement, parce que je crois que s'il y a bien un domaine où on doit être... Enfin, en tout cas, moi, je soutiens le gouvernement sur son intervention en Irak. Je dis même qu'on a peut-être tardé. Je me pose la question, si vous voulez. Je sais pas si on solutionnera les problèmes avec des frappes aériennes seulement. Je pense que ça sera... peut-être pas suffisant, on l'a vu au Mali, mais en tout cas, moi, je soutiens le gouvernement dans cette lutte contre la barbarie. Là, pour le coup, je crois qu'il doit y avoir un mouvement d'union nationale. Hier soir, on avait un meeting politique, vous le savez, avec Guillaume Pelletier et Jean-Paul Garot, et je ne savais pas encore que Hervé Gourdel était décédé, avait été décapité, et je voulais interpeller l'Assemblée en disant c'est les choses suivantes, que au fond, cet homme était parti, c'est un homme, un guide de montagne qui aimait l'alpinisme, qui était parti pour vivre sa passion, qui finalement était peut-être un peu déconnecté de la réalité, un peu déconnecté de la politique. Peut-être même, j'ai avancé l'idée qu'il s'intéressait pas à la politique comme beaucoup de Français. Et aujourd'hui, ce que je dis aux Français, c'est qu'on est tous concernés, malheureusement. Tous. Parce que tous, potentiellement, et surtout, ce n'est pas des politiques, on n'est pas protégés. Nous sommes des cibles potentielles devant cet ennemi aveugle, cet ennemi barbare, cet ennemi anonyme, et qui se cache. Moi, je trouve, il n'y a pas de mots, c'est innommable, c'est terrifiant. Et je voudrais dire, puisqu'on me donnait ce micro sur ce sujet, j'ai fait un communiqué tout à l'heure, que je voudrais remercier et féliciter les musulmans qui enfin prennent la parole pour justement qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce matin ça m'a frappé quand je regardais la télévision, ces vidéos et ces clips, de tout un tas de musulmans du monde entier qui disent ce slogan en anglais « Not in my name », pas en mon nom, c'est-à-dire cet État qui se proclame islamiste n'a rien à voir avec l'islam. Et je suis heureuse d'ailleurs que les pays du Golfe, dont on sait quand même qu'ils jouent un double jeu, parce qu'ils arment, ils ont armé les djihadistes, qu'il s'agisse du Qatar, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, qu'enfin ces pays eux-mêmes disent que ces gens-là ne peuvent pas se réclamer du monde musulman et de l'islam.
Et participent aux
opérations. Et participent enfin, c'est nouveau quand même, c'est une volte-face, enfin, à cette lutte contre... quelque chose, mais qui est pire même, peut-être, c'est le nazisme, c'est l'horreur absolue. C'est vraiment, les images qu'on voit sont toujours, même si elles sont floutées, moi, je sais pas, j'étais émue chaque fois que je les vois, le couteau du boucher à côté de ces victimes ligotées. Enfin, vraiment, je dis, voilà, il faut qu'on se lève tous les Français, qu'on aime la politique, qu'on n'aime pas. Ce problème nous concerne à tous.
Allez, on change de sujet. Madame Barrez, vous avez évoqué la visite de Monsieur Pelletier.
Oui.
Ici, que vous avez accueilli à Montauban. Pensez-vous, Brigitte Barrez, que l'histoire de l'UMP est terminée, qu'il faut désormais un nouveau parti, tout changer de la cave au grenier? Ce sont les propos de François Fillon.
Je crois que tout le monde aspire à un changement. J'espère que ce n'est pas simplement de la phraseologie. Je crois sincèrement que notre pays est essoufflé. Ses institutions sont en... On parle du Sénat. Bien, personnellement, moi, je serais pour supprimer le Sénat. Je serais pour diminuer... Non, mais je veux dire...
Ça va pas faire plaisir à Monsieur
Bonnet. Non, peut-être pas, mais... vous me posez des questions, évidemment, et qu'il faudra réfléchir à tout ça. Vous savez, Charles de Gaulle, il avait pensé en son temps, ça lui avait coûté cher. Je pense qu'on a peut-être un peu trop de parlementaires, un peu trop de strates, on le sait très bien, on en parle tous, mais on fait rien. Je crois que l'idée, justement, de donner la parole au peuple avec le référendum permettra peut-être aux politiques, finalement, d'être un peu plus courageux, de se débarrasser des sujets qui fâchent. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai lu cet été, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Laurent Wauquiez, L'Europe, il faut tout changer, qui est très, très intéressant sur, justement, l'espace Schengen, sur la communauté européenne, sur une Europe plus rétrécie, mais avec les mêmes normes.
Refermée sur elle-même.
Pas refermée, c'est-à-dire qu'on est les mêmes normes, on le voit soit pour l'agriculture, en matière de travail, droit du travail, en matière de phytosanitaire, en matière d'environnement. On voit que la France est pénalisée par son code du travail et par son principe de précaution qui est poussé à l'extrême par les ayatollahs de l'écologie. Alors tout cela, oui, il faut tout changer. Aussi bien au niveau européen qu'au niveau français.
Mais je parle
et
de
dans notre parti, vous avez raison.
Et
dans
notre parti, est-ce que selon vous,
j'espère, vous voyez, je vais être très révolutionnaire. Il faut arrêter avec le parisianisme. Il faut décentraliser un peu plus l'UMP au niveau des régions pour que les élus de terrain aient leur mot à dire.
C'était le sens de votre courrier que vous avez co-signé.
Exactement.
Et qui est paru dans le Figaro.
Que j'ai co-signé
avec
d'autres maires de terrain, sous l'égide de Laurent Wauquiez.
De Laurent Wauquiez.
Que j'aime beaucoup.
Que vous aimez beaucoup, et je fais une petite parenthèse, qui s'est prononcé, lui, pour une abrogation de la loi sur... une abrogation de la loi mariage pour tous.
Alors oui, alors ça, c'est un vrai sujet compliqué.
C'est une parenthèse, mais est-ce que ça vous a surpris que Laurent Wauquiez propose...
Alors, il a été courageux parce que c'est pas un sujet facile.
Et je pense l'ancien président qui s'est peut défiler sur cette question.
Lui aussi, je crois qu'il a eu raison parce que je crois que c'est un sujet qui devient d'autant plus compliqué que la loi maintenant est votée. Donc, il faudrait, à mon avis, c'est un sujet sociétal.
Est-ce que vous
par voie de référendum,
moi, je pense
que ce serait bien.
Pour aller vite. Ouais. Est-ce que vous abrogerez cette loi?
J'ai évolué sur le sujet. J'ai évolué. J'en ai parlé avec ma fille l'autre jour, d'ailleurs. Et je me dis, bon, après tout, les regards, il faut écouter ce que disent les jeunes aussi. Mon fils qui vit au Canada, c'est quelque chose qui est en vigueur. Moi, ce qui m'interpelle le plus, vous voyez, c'est le problème de la situation de l'enfant par rapport à un couple homosexuel. Et donc, tous ces sujets qui tournent autour de cela, ce sont des sujets importants. On a braqué les gens.
C'est un petit peu dans la langue de bois, madame.
Non, Barrage. C'est pas langue de bois, parce que c'est un sujet compliqué.
Est-ce que vous iriez comme Laurent Wauquiez
Je m'intéresserai à ce sujet et j'écouterai tout le monde. Je crois qu'il, franchement, ce n'est pas simple. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui vivent ces.
D'accord,
pardon. On se fait de grands signes.
Vous faites des grands signes.
Sébastien, reste juste une minute.
Bon, alors pardon, on va arrêter le sujet. Donc on en reparlera.
On aura entendu que vous faites votre chemin.
J'ai fait mon chemin.
Vous aussi, vous faites votre chemin.
Je fais mon chemin et je crois ces personnes. Voilà.
Comme l'ancien président, est-ce que vous l'avez trouvé bien? Est-ce que c'est toujours votre champion? Est-ce que vous vous ralliez?
Je vais rapidement vous répondre puisque vraiment que j'ai une minute. Je ne suis pas d'un sarcomania. Vous savez, j'ai toujours été sarcosiste. Maintenant, je dis, j'espère, c'est oui, mais...
Filloniste aussi, madame.
J'ai soutenu Fillon contre Copé. Bon, maintenant Fillon m'a un peu... Bon, je ne veux pas dire, ça c'est des questions internes.
Il vous a déçu
50 secondes.
Oui, il m'a un peu déçu.
À quel sujet?
Les querelles de personnes, je suis désolée, je n'aime pas ça. Et je voudrais qu'on évite ça. Sarkozy, je veux le rencontrer pour lui dire certaines choses. Je ne pense pas que la prochaine élection se fasse au centre comme il le pense lui. Voilà.
Une dernière question, Rémi.
Si Brigitte Barrège est capable de répondre en 15 secondes, la question est courte.
Est-ce que vous avez été déçu que Valérie Rabault prenne position contre les exactions, tout ce qui avait été fait au niveau de la préfecture?
Je pense
par les agriculteurs.
Non, je l'ai interpellé.
Vous avez pris position, vous
non,
aussi.
J'ai pris position. Je l'ai interpellé. Bon, on fait un peu de la guéguerre politique, c'est une adversaire politique. Je dis que c'est pas tout de condamner les manifestations dans la préfecture de Montauban. Il faut aussi condamner les manifestations contre le barrage de Siemens dans le Tarn. On peut pas être à deux courants. Moi, je suis contre la violence par principe. J'ai même fait une tribune, vous l'avez
dit, avec Brigitte Barrège, parce que malheureusement, il nous reste 3 secondes et je préfère vous couper, moi, que ce soit l'ordinateur qui vous coupe. Il est 17h30.
Merci.